La première présente Place Publique, un magazine de la rédaction radio.
Un meurtre conjugal que certains désignent sous l'appellation féminicide, recensé pour l'instant depuis le début de l'année en Guyane, c'est déjà un de trop. D'autant que les chiffres des violences intraconjugales ne cessent d'augmenter sur notre territoire et les victimes sont de plus en plus nombreuses. Ainsi, en 2020, la gendarmerie a enregistré plus de 800 plaintes pour violences conjugales. La crise Covid est-elle passée par là? En tous les cas, le phénomène est bien présent dans notre société. Dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, Place Publique ouvre le débat autour de cette thématique « Violences faites aux femmes, quelles solutions en Guyane ?» Bienvenue dans ce nouveau numéro.
Place Publique.
Place Publique.
Et nos invités sont aujourd'hui donc Eliane, bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes victime, vous avez été victime pendant des années de votre mari.
Oui.
Merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout merci pour votre courage pour venir témoigner dans notre émission et de votre calvaire et comment vous essayez de vous reconstruire en ce moment. Bonjour Maïté Fillon.
Bonjour.
Vous êtes donc animatrice en éducation vie affective, sociale et sexuelle au sein de l'association Idées Santé. Vous intervenez principalement au milieu scolaire. Hein?
Oui, tout à fait.
Bonjour Leslie Porte.
Bonjour.
Vous êtes donc la présidente de l'Arbre fromager, créée voilà, plus d'une vingtaine d'années maintenant.
En 2003, effectivement.
En 2003. Et donc c'est une association qui vient en aide aux victimes.
Qui vient en aide aux femmes pour toute problématique, dont les femmes victimes de violences.
Très bien, ben, on essaie d'en parler un peu plus dans cette émission. Nous accueillons également Claire Marine Céleste. Bonjour Claire Marine.
Bonjour Patrick.
Vous êtes donc le journaliste stagiaire au sein de notre rédaction. Et tout au long de cette semaine, vous avez réalisé une série de reportages avec Alexandra Silbert et Frédéric Larzrabal sur les violences faites aux femmes. Dans quelles conditions avez-vous travaillé?
Eh bien, nous avons essayé de rencontrer tous les acteurs qui viennent en aide aux femmes victimes de violences. Donc déjà, les associations, hein, comme l'Arbre fromager, dont vous êtes la présidente, Leslie Porte, également l'association d'aide aux victimes d'infractions pénales. Nous avons rencontré les travailleuses du SAMU social, qui aident à la prise en charge d'urgence, le substitut du procureur délégué aux violences conjugales, et puis la gendarmerie et le centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales. Nous avons également eu la chance de recueillir le témoignage de trois femmes qui ont été victimes de violences. Les seules personnes qui nous manquaient un peu en termes d'interlocuteurs, c'était justement les auteurs de violences conjugales. Mais le centre de prise en charge est encore très récent. Il faut donc bien que la relation de confiance s'établisse entre ces auteurs et les travailleuses qui les encadrent.
Est-ce qu'il était facile de recueillir la parole des victimes ?
Alors l'Arbre fromager nous a beaucoup aidé hein, à trouver les victimes, à leur donner confiance pour nous parler. Mais oui, après une fois que le dialogue était noué avec ces femmes, eh bien elles avaient tout à cœur de vraiment raconter cette histoire pour que les femmes qui vivent la même chose, eh bien déjà se sentent moins seules, comprennent qu'il y en a d'autres comme elles, malheureusement beaucoup, et puis surtout comprennent que l'on peut s'en sortir et que l'on peut trouver de l'aide pour ne pas avoir à s'en sortir toute seule.
On a vu cette jeune femme Mirella, donc on l'a entendue, on l'a vue aussi en télé. Elle a eu le courage de se présenter face caméra à visage découvert. Il était facile de la convaincre et de lui redonner confiance pour qu'elle s'exprime ainsi devant la caméra.
Eh bien, elle avait à cœur de s'exprimer à visage découvert pour justement donner un visage aussi à ces violences qui touchent tant de femmes. Et puis, c'est une jeune femme qui est bien décidée à se reconstruire, à tourner la page. C'est une jeune femme qui est également comédienne. Elle a joué dans plusieurs films justement sur les violences conjugales. Et elle utilise cette expression artistique pour non seulement dépasser cette expérience qui a été extrêmement douloureuse, mais aussi essayer de la transformer en un mouvement plus large qu'elle et essayer, eh bien voilà, de témoigner auprès d'autres femmes et de justement montrer que les violences conjugales peuvent prendre tous les visages, dont le sien.
Et peut-être inciter les jeunes femmes qui sont également victimes à se manifester.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on a pu voir hein, sur les réseaux sociaux où ont été publiés eh bien certains épisodes de cette série que nous avons réalisée, énormément de messages de soutien, mais aussi des messages d'internautes de notre audience qui, elles, témoignaient d'une situation similaire et étaient heureuses de voir ces histoires partagées. Voilà, et qui témoignaient de toute l'importance que ça a aussi d'avoir ce débat au sein de nos sociétés.
Eliane, quel a été le déclic pour vous pour franchir le pas et dénoncer le comportement violent de votre mari?
Alors, le déclic, c'est que au début, c'était que psychologique, c'était que des paroles. T'es pas une femme intelligente, de toute façon, personne va te croire. Et en fait, j'ai cru à tout ça, que personne n'allait me croire. Parce que j'ai quelqu'un qui a deux visages. J'ai quelqu'un qui, devant les gens, très gentil, très aimable, même au centre de son travail. Alors, j'avais beaucoup de mal à parler de ce que je vivais chez moi. Parce que je suis quelqu'un qui porte la voix, je suis quelqu'un qui parle fort. Et des fois, les gens se sentent agressés quand j'essaie de m'exprimer. Surtout quand je suis stressée. Et j'avais du mal à parler autour de moi, à ma famille, à mes amis, à mes connaissances. Et j'ai gardé tout ça pendant des années, pendant très longtemps. Et le déclic pour moi, c'est quand ça a commencé des agressions physiques. Parce qu'on n'a pas la même force.
Là, il y a eu des coups. Là. Il y a eu des pouces,
j'ai été cognée, j'ai eu des objets qui ont été balancés. Et à chaque fois, cette personne voulait me attraper par le cou. Et à un moment, je me suis dit, ou je dénonce, je vais mourir. Et comme je regarde beaucoup de choses, je médite beaucoup. Et j'étais suivie par un psy. Et je parlais un peu trop. Il me dit qu'un jour, il fallait que je dénonce tout ça. Et j'ai pris mon courage en deux mains et j'ai dénoncé.
Ça a duré longtemps, ce calvaire-là?
Oui, parce que j'étais en métropole et au bout de 2 ans que j'étais ici, ça a commencé. Et ça a duré 1 an et demi. Et je subissais des choses tout le temps. Je vais te mettre dehors, de toute façon, tu ne dois pas rester ici, dégage, ce n'est pas ta maison. C'était beaucoup de paroles. Je me sentais punie comme un enfant. Parce qu'à chaque fois que je faisais quelque chose qui ne plaisait pas, eh ben, j'avais le droit à rien. Même à Noël, à mon anniversaire. Et au début, en fait, j'avais du mal à comprendre que je n'étais pas traitée comme une femme. J'étais traitée comme si j'étais l'enfant de cette personne. Mais je n'ai pas compris tout de suite, en fait.
Traitée aussi comme un objet,
peut-être. Pour moi, c'était normal, tout ça. Mais avec le temps, je me suis dit, non, attends, ce n'est pas normal. Je ne suis pas son enfant, je suis sa femme. Et le manque de confiance de cette personne envers moi. Et que je faisais tout pour lui montrer que, voilà, que je le respectais, que j'étais là et que je faisais tout pour lui faire plaisir, mais jamais était assez. Et puis quand il m'a balancé un objet très lourd, qu'il a failli péter ma tête, et là je me suis dit, là ça a été le déclic pour moi. J'ai appelé une amie et je lui ai dit, écoute, il faut que je porte plainte. Et j'étais guidée et après ça, j'ai porté plainte. Mais ma plainte a été classée sans suite parce qu'on n'a pas cru ce que je racontais. Parce que je n'avais pas beaucoup de marques sur mon corps. Et du coup, ça a été classé sans suite, ma plainte. Et j'ai été guidée vers l'arbre fromager. Et c'est eux qui m'ont aidée, qui m'ont logée. J'ai été suivie. Et comme j'ai mes parents qui vivent à Kourou, et j'ai demandé un logement là-bas pour être près de ma famille, pour ne plus rester à Cayenne. Et c'est justement toutes ces choses-là, toutes ces démarches que l'arbre fromager a fait avec moi pour que je puisse avoir mon logement à Kourou.
Est-ce que vous aviez ce sentiment de culpabilité? Parce que souvent on dit que les victimes ont ce sentiment d'être coupables.
Oui, parce qu'en fait j'avais un grand souci d'enfance, c'était l'abandon. Et je pensais que tout ça, c'était ma faute. Parce que j'ai un mauvais caractère, parce que je parle fort, parce que je ne sais pas m'exprimer, parce que limite, je crie quand je m'exprime. Mais je ne crie pas, c'est ma façon de m'exprimer. Et je suis quelqu'un que, au début, non, mais aujourd'hui, je me dis, coûte qui coûte, je veux dire ce que je ressens, je veux dire ce que ça me fait mal, parce que pendant des années, j'ai gardé plein de choses pour moi. Et ça m'a porté beaucoup de préjudices auprès des entourages, des amis, de la famille, parce que j'ai toujours tout gardé. J'ai toujours été quelqu'un d'explosif, mais les choses plus graves, je gardais pour moi. Et je voulais toujours montrer aux gens que tout allait bien et qu'en fait, tout allait mal.
Et cet enfermement psychologique dont vous parlez, Eliane, c'est quelque chose qui revient souvent dans les témoignages que l'on a récoltés. C'est ce qu'on appelle l'emprise, hein, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il vous punit comme une enfant, comme vous disiez, vous perdez votre confiance en vous. Et vous avez eu la force d'aller déposer plainte dans ce processus. Pour vous, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Parce qu'on dit souvent que la plainte, le fait de devoir raconter cette histoire, c'est ce qui est le plus dur pour les femmes. Est-ce que les difficultés étaient à ce moment-là? C'est arrivé après pour vous?
La difficulté était parce qu'on ne me croyait pas. Même ma famille ne croyait pas ce que je racontais. Parce que comme j'ai une personne qui a deux visages, Et du coup, j'avais du mal à me faire comprendre, à expliquer ce que je vivais. Et au début, j'ai eu beaucoup de mal à en parler parce que je dis comment je vais faire, comment, à qui je vais parler, qui va me croire, comment je vais procéder, parce que déjà je ne savais pas comment, où aller et à qui parler.
À qui vous adressez? Vous ne saviez pas à l'époque s'il y avait des associations qui pouvaient aider les
non,
femmes?
Non, je ne connaissais pas du tout parce que j'ai vécu pendant des années en métropole.
D'accord.
Et du coup, je revenais en Guyane que pour les vacances. Et je ne connaissais pas du tout les associations. Et du coup, c'est une personne qui m'a guidée, qui a téléphoné à ma place. Et j'ai pris rendez-vous et je suis partie les voir. Et là, je me suis sentie entourée parce qu'il y a des gens qui m'ont écoutée. Et il y a des gens qui ont pris au sérieux ce que j'étais en train de raconter. Et c'était des gens qui ont dit, on ne doute pas du tout ce que tu racontes. Parce que tu n'es pas la seule. Il y en a plusieurs dans ta situation.
Les supports, comment expliquer ce sentiment de culpabilité, souvent parfois associé à la honte?
Effectivement, moi je trouve que c'est vraiment... Merci beaucoup pour le témoignage que vous faites. Ça peut aider d'autres femmes à comprendre qu'elles ne sont pas seules et qu'elles ne sont pas folles. Et qu'elles ne sont pas responsables pour ce qui arrive. En fait, il y a tout ça. C'est que je me rappelle plus la question que vous m'avez posée. Donc,
oui, comment expliquer ce sentiment de culpabilité et, voilà. Et je disais qu'il est souvent associé à la honte de la victime.
Voilà, c'est ça. Bah, il y a plusieurs choses. C'est que on se trouve dans un engrenage sans qu'on se rencontre. Parfois, ça prend plusieurs années avant qu'on se rencontre, qu'on est dedans et on est dans un piège où on a des difficultés à s'en sortir. Et effectivement, une des choses que l'auteur de violence va faire sur cette emprise qu'il met sur la victime, c'est de l'embrouiller. C'est que, en fait, souvent, il va lui dire, bah, en fait, peut-être plusieurs personnes ont entendu parler de ce qu'on appelle le cercle de la violence, où dans un premier temps, tout est beau, tout est magnifique, on est attiré par l'autre personne, on rentre dans cette relation, et tout doucement, il y a des tensions qui arrivent, où la victime sait qu'elle ne devait pas faire certaines choses, comme a dit madame, c'est qu'il y a une certaine emprise et violence psychologique qui est exercée sur la victime, pour qu'elle devienne presque sa chose et qu'elle fait exactement ce que lui il demande. Par la suite, il peut y avoir une crise et que c'est à ce moment de crise qu'on voit vraiment lui qui va se justifier de ce qu'il a fait, mais également il va souvent dire écoute, je t'ai dit que j'aime pas que tu portes cette robe sexy quand tu sors avec tes copines. Regarde comment tu es habillée. Tu peux comprendre que ça m'énerve. C'est ta faute si je finis pas de frapper. Parce que là, t'as fait ce que tu devais pas faire. Donc, c'est le genre de choses que la personne va entendre qui va l'embrouiller ou elle va se dire...
Il y aura une confusion dans son esprit.
Je suis peut-être responsable pour ce qui m'arrive. Et même, on entend les femmes dire que peut-être j'ai mérité ces coups. Donc, en fait, également, elle se sent coupable si elle va le dénoncer. C'est son mari ou c'est le père de ses enfants. C'est la personne avec qui elle habite, c'est la personne avec qui elle couche. C'est extrêmement difficile pour elle, donc elle se sent coupable de peut-être faire exploser la cellule familiale.
D'où l'aspect tabou de ce problème, parce qu'on a peur d'en parler.
Effectivement, il y a plusieurs raisons pour pourquoi les femmes n'arrivent pas à en parler. Elles pensent peut-être pas, comme a dit madame, qu'elle serait peut-être pas crue. C'est la première raison pour laquelle on ne parle pas. Parce que c'est fou ce que je vis. Et que ça fait des années que je le vis. Donc qui sait qui va finir par me dire, oui, on te croit et qu'on va t'aider. Donc elles finissent par rester longtemps. On a fait une manifestation où on a représenté toutes les 103 féminicides en France de cette année et que je faisais partie des personnes qui a énoncé les noms des personnes et leurs âges. Et on avait un paquet de personnes qui avaient plus que 60 ans. Entre 60 ans et 83 ans que les personnes étaient rouées de coups et qui sont mortes.
C'est un calvaire qui peut durer très longtemps.
Ça veut dire qu'elles ont vécu avec ça pendant des années. Et une des raisons pour laquelle elles vivent avec, c'est que c'est un tabou, c'est un secret. Elles se sentent coupables le plus longtemps qu'elles ne le dénoncent pas, le plus coupables qu'elles se sentent de vivre avec ça, de faire subir peut-être son entourage. Et c'est extrêmement difficile. C'est complexe. C'est très, très complexe.
Maïté Filion, vous intervenez donc souvent en milieu scolaire, je le disais.
Oui.
Notamment pour lutter contre les stéréotypes chez les jeunes. Quels sont ces stéréotypes?
Alors, quand on parle de stéréotypes, du coup, c'est les stéréotypes de genre. C'est en gros quand on enferme les femmes dans des cases et les hommes dans d'autres cases. Et comme si les hommes devaient remplir certains rôles et les femmes d'autres. Et qu'on pouvait pas
Par exemple, la femme doit rester à la maison.
Voilà, par exemple. Et qu'on doit pas, voilà, qu'on n'ait pas cette liberté, du coup, en tant que personne et pas en tant que personne genrée. Donc, on essaie de travailler avec les jeunes là-dessus. Mais disons que on a plusieurs thématiques qu'on traite et que les stéréotypes de genre, on essaye de garder ça en tête tout au long de nos thématiques. C'est-à-dire qu'on garde ça en tête, on essaye de déconstruire toutes ces représentations quand on échange avec les jeunes.
L'idée, c'est de leur apprendre le respect envers les autres, mais aussi la notion du consentement. Pourquoi ?
Tout à fait, tout à fait. Alors, le respect au sens large, on parle du respect des autres, on parle de différents respects. Mais on parle aussi, bien sûr, de la notion de consentement. Donc, le consentement qui est se mettre d'accord pour effectuer certaines chose avec une personne. Avec les tout petits, on parle déjà de consentement pour faire un câlin, de consentement pour faire un bisou. De se mettre d'accord et d'accepter le refus de l'autre et d'accepter d'être peut-être des fois frustré, mais de respecter ce que l'autre pense.
Ce qui est important, parce que parfois la frustration dans les couples peut engendrer justement ces violences.
Tout à fait, tout à fait, oui, oui.
Alors, Marie-Sandrine Bacoul est une jeune réalisatrice, guyanaise. Elle s'est saisie de cette cause et a ainsi réalisé un spot de prévention intitulé « La violence ne rend pas aveugle ». Il s'agit d'évoquer les violences faites aux femmes à travers les yeux d'un enfant. On l'écoute.
Parce que je pense que ce sont finalement des victimes oubliées. Et puis je me dis toujours qu'un enfant qui assiste à ce genre de violence peut devenir demain lui-même aussi soit un homme violent... ça peut avoir vraiment des conséquences graves dans sa vie d'adulte. Donc je me dis, il y a peut-être une chance... En tout cas, j'avais envie d'ouvrir ce débat et voir ce que nous, les adultes, on peut faire pour les protéger.
Vous pensez que, vous le disiez, les victimes d'aujourd'hui peuvent devenir les bourreaux de demain. Ah, vous pensez qu'aujourd'hui, on n'en fait pas assez, justement, pour les enfants?
En tout cas, il y a encore du travail à faire, ouais. Je pense que tout se joue à ce moment-là. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans mes films, je tourne beaucoup avec les enfants parce que je crois en la jeunesse. Et il y a beaucoup de choses qui pourraient être évitées plus tard si on les prenait à temps, si on leur expliquait les choses. Et si on considérait aussi leurs sentiments, finalement, ils voient tout, ils entendent tout. Et oui, la violence ne les rend pas aveugles.
Marie-Sandrine Bacoul au micro de Véronique Betz. Eliane, est-ce que vos enfants ont assisté à des scènes où votre mari vous frappait?
Oui, pas tout le temps, mais il ne me frappait pas, il me bousculait tout le temps. C'était plus des bousculades que frapper, parce qu'il ne m'a jamais vraiment frappé. Il m'a levé la main, mais c'était que me pousser, me cogner, me jeter des objets.
C'est comme des coups.
Oui.
C'est des coups. Mais le fait de...
Mais des fois, les enfants, ils ont vu plusieurs choses. Et ça ne les a pas fait du bien du tout. Et c'est justement pour ça que j'ai pris la décision de partir.
Dans ces conditions, comment faire pour les réconforter, pour les rassurer, quand ils voient qu'effectivement leur mère est peut-être vilipendée, qu'elle reçoit des propos haineux?
Mais je suis quelqu'un qui discute beaucoup. Je suis vraiment esprit ouvert d'en parler, d'essayer d'expliquer et de dire que je vais partir. Mais ma grande, elle a été un peu révoltée parce que à chaque fois que je disais que j'allais partir et je partais jamais. Parce que j'avais peur que manque de tout à mes enfants. J'avais cette crainte parce que ça faisait des années que j'étais mariée avec cette personne.
Est-ce que vous aviez peur qu'ils s'en prennent aux enfants?
Non, ça, j'avais pas peur parce que c'était pas du tout contre les enfants.
Et ce que vous racontez, hein, c'est quelque chose d'assez important parce que les femmes retournent en moyenne 7 fois auprès de leur agresseur avant de réussir à le quitter. Et il y a effectivement cette question du confort matériel que l'on offre à ses enfants. Hein. L'an dernier, en 2020, sur 143 demandes d'hébergement reçues par le SAMU social, il y avait 125 familles monoparentales. Donc cette peur d'être à la rue avec vos enfants, vous l'avez eue également. Et il y a beaucoup de femmes qui la vivent. Alors vous, qui vous a aidé justement à peut-être la dépasser ?
En fait, déjà que je travaille... moi, je travaille, j'avais un emploi. Du coup, ça aussi, ça m'a aidée.
Vous êtes indépendante sur le plan
financier? Oui, je suis indépendante sur le plan financier. Mais au début, je me suis retrouvée sans rien parce qu'il m'a tout pris. Et j'ai eu l'aide de l'arbre fromager qui m'a aidée avec un logement. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps pour que je puisse avoir mon logement. Et comme j'avais créé une entreprise et que j'avais mis en stand-by... Et du coup, j'ai repris les activités doucement. Avec le Covid, c'est pas évident. Mais je reprends doucement, même si c'est pas facile tous les jours. Mais je me suis dit, je préfère partir et avoir moins qu'avoir plus et perdre ma vie.
Maïté Fillon, est-ce que vous pensez qu'il subsiste ce traumatisme chez les enfants quand ils assistent à des scènes de violence conjugale comme cela ?
Alors, c'est un peu difficile de répondre à la question. Ce que je peux vous dire, moi, en tant qu'animatrice qui suis directement sur le terrain avec les enfants, déjà, c'est que on a parfois des témoignages d'enfants qui sont, on va dire, co-victimes de violences conjugales. Par exemple, je peux vous citer un enfant qui nous a dit « Mon père a frappé ma maman avec le balai, elle saignait beaucoup dans le dos, j'avais peur ». Voilà, donc ça c'est un témoignage par exemple d'un petit garçon, d'une petite fille, je ne sais plus. Un autre témoignage qu'on a eu, on parlait justement de filles, de garçons, de qu'est-ce que c'est qu'être une fille, qu'est-ce que c'est d'être un garçon, les genres. Et là, on a un enfant qui nous a dit « je suis content d'être un garçon moi, parce que je sais que les femmes se font battre par les hommes ». Voilà, donc on sait...
Ça fait quand même froid dans le dos quand on entend ça.
Ah, tout à fait. C'est très dur de recueillir ces témoignages-là d'enfants qui subissent indirectement, mais en fait directement, la violence qu'il y a dans leur foyer. Nous, avec Idée Santé, on est convaincus qu'on peut agir dès le plus jeune âge avec les enfants, avec les jeunes. Ça commence par exemple en CP, on intervient par exemple sur les émotions. On essaye d'expliquer aux enfants qu'est-ce que sont les émotions et comment on peut apprendre à les gérer. Par exemple, gérer la colère sans justement que ça ait d'impact sur l'autre. Ça commence par ça. Ça va aussi sur l'estime de soi. Essayer de se sentir bien dans sa peau. Et ça, c'est important aussi dans la vie future pour le rapport aux autres. Comme on l'a dit tout à l'heure, on va traiter aussi de tout ce qui est respect, consentement. Et donc ça, nous, on pense que vraiment, ça va avoir un poids, un impact sur leur évolution, sur leur développement et sur leur agissement et leur comportement auprès des autres, en fait.
Eliane, vous disiez à l'instant que votre aîné était révolté parce que vous ne partiez pas de la maison.
Je ne quittais pas le domicile. Et à chaque fois, quand elle entendait les disputes, ce qu'il me disait, que moi, je disais aussi. Et elle me dit, maman, si tu ne pars pas, c'est moi qui vais partir. Et c'est vrai qu'elle est partie. Elle est partie, ma fille, elle est partie plus tôt que prévu parce que ce n'est pas la fille de mon mari. Son père habite à Kourou et du coup, elle est partie.
Ça lui a donné un déchirement pour vous.
Beaucoup. Ah ben, jusqu'à aujourd'hui, je m'en veux énormément.
Et aujourd'hui, elle vous dit quoi maintenant que vous êtes partie?
Aujourd'hui, on est très amis. On discute beaucoup. On discute de tout. Elle me soutient. Et elle est là pour moi. On est mère et fille, mais on est des très bonnes copines aussi. Et ça, ça m'aide pour l'avenir.
Alors, je vais vous laisser réagir dans un instant, les supports, mais avant tout, je vous propose d'écouter justement Laura Jane McGuire, psychologue au sein de l'Arbre fromager, qui évoque les effets des violences sur les enfants et le fait que cela a des chances de les rendre auteurs ou victimes. On l'écoute.
L'année dernière, on a pu recenser, il me semble, 14 enfants tués lors des violences conjugales. Donc ça, c'était sur l'année 2020. Ensuite, on considère, pareil, sur la même étude, que 40 à 60% des enfants qui ont été témoins de violences conjugales ont un risque élevé de reproduire ces violences. Donc d'un côté, il va y avoir les reproduire en tant qu'auteur, donc mettre en place le même système de violence, vu que là, c'est la seule chose qu'on connaît. Finalement, pour nous, ça devient la norme. Enfin, pour les enfants témoins de violences conjugales, ça devient la norme. Et aussi, l'autre versant, ben, je vais avoir tendance à être victime de ces violences-là, parce que pour moi, la relation de couple, ça ressemble à ça. C'est je me tais, je me cache, j'essaye de faire en sorte que tout se passe bien, au dépit de ce que moi, j'ai envie.
Alors, Madame McGuire annonce des chiffres au niveau national. Laissez pour tout.
Effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce que dit notre psychologue, Laura Jane. C'est qu'en fait, quand les femmes viennent nous voir pour parler de la violence qu'elles subissaient, elles évoquent les enfants et très souvent, elles disent « bah, je ne vais pas partir et je ne vais pas dénoncer parce que je ne veux pas qu'il y ait des problèmes pour les enfants. Je ne veux pas que monsieur y aille en prison. Je ne veux pas qu'il y ait une rupture dans cette cellule familiale parce que les enfants, ils ont besoin de leur père. » Alors, un père, il serait père pour toute sa vie. Mais c'est pas obligé qu'un couple doive rester ensemble pour toute la vie, surtout si c'est néfaste pour la santé de la femme, la bien-être de cette femme, mais également pour les enfants. Et je pense qu'il y a une chose que les femmes finissent par comprendre quand elles sont en prise en charge à l'arbre fromagé ou ailleurs, c'est qu'en fait, même si les enfants ne voient pas au premier vu les coups ou n'entendent pas les insultes, les rabaissements par rapport à leur mère, ils vivent dans une ambiance de peur très anxiogène, de quelque chose qui n'est pas normal et que ça va forcément avoir
une tension.
Voilà, voilà. Et que si ce n'est pas travailler avec les enfants ou si c'est pas on met pas à un moment donné fin à cette situation, il peut y avoir des séquelles pour les enfants. Les séquelles qu'on voit tout de suite à l'école, les enfants qui sont en échec scolaire, les enfants qui dorment en classe, les enfants qui sont très violents avec les camarades de classe. Tous ces comportements peuvent être interprétés comme un problème à la maison et il y a toutes les professionnels qui ont un devoir de chercher plus loin qu'est-ce qui se passe et d'aider l'enfant à en parler et faire sens de ce qu'il vit. Alors si cet enfant, à un moment donné, avec des adultes et des professionnels, il est aidé à faire sens, bah, la plupart, ils vont s'en sortir avec les relations normales et une vie normale après. C'est quand l'enfant est laissé dans cette situation que ça peut provoquer les séquelles qui restent.
Maïté Fulignan, est-ce que ce n'est pas justement cela que vous essayez d'éviter pour ces enfants qui sont donc dans cette situation-là? Mais pour cela, il faut sans doute mettre en place un suivi de ces enfants. Comment est-ce que vous pouvez procéder pour y parvenir?
Alors, nous, on ne fait pas de suivi de ces enfants directement. Par contre, on fait des signalements. Du coup, vu qu'on agit en milieu scolaire, on fait des signalements par le biais justement des directions d'école. Et après, ça va plus haut dans l'éducation nationale. Donc, effectivement, on signale quand on a des témoignages, quand on a, voilà, quand on voit des choses de ce genre-là. Et après, on va rediriger du mieux qu'on peut vers les assistantes sociales, vers voilà, des personnes qui sont vraiment professionnelles et experts dans le domaine du suivi de victimes. Après, nous, en tant que plutôt qu'acteurs de prévention, ce qu'on essaie de faire déjà, c'est à travers nos animations, on est toujours dans l'échange avec les enfants, dans la libération de la parole, et on les pousse doucement à s'exprimer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nos animations, les enfants peuvent donner leur avis, peuvent échanger. On aime beaucoup aussi instaurer des débats entre eux. Et du coup, parfois, quand on a des témoignages d'enfants qui sortent comme ça, hein, devant tout le groupe, eh ben, on va pas prendre la parole tout de suite pour dire c'est pas normal, c'est normal, c'est bien, c'est pas bien. On va demander aux autres qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de ça, à votre avis, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce que vous feriez à sa place. Voilà, on essaie de discuter ensemble et de voilà de libérer la parole des jeunes au maximum.
Alors, Claire Marie-Céleste, sur la question de la prise en charge, quel est le constat que vous avez fait sur le terrain?
Alors la question de la prise en charge, bah écoutez, elle progresse hein, sur le territoire, il y a des acteurs, mais c'est vrai que quand on compare les chiffres du nombre de demandes au nombre de places qu'il y a sur notre territoire, ça paraît un peu léger quand même, c'est-à-dire qu'il y aurait donc officiellement une dizaine de places d'hébergement d'urgence, en gros une cinquantaine si on prend en compte les nuitées hôtelières qui peuvent être déployées dans l'urgence, etc. Et on est sur 143 demandes donc de mise à l'abri d'urgence rien qu'auprès du SAMU social, sur plus de 800 plaintes à la gendarmerie. C'est vraiment énorme et on se demande, eh bien voilà, qu'est-ce qui est fait pour faire progresser. Alors peut-être Leslie Porte, vous qui avez travaillé avec les femmes victimes de violences depuis 17 ans maintenant, qu'est-ce que vous avez vu comme progression et qu'est-ce qui reste à faire à ce niveau-là? Pourquoi c'est si difficile d'avoir des places pour héberger ces femmes?
Alors, l'idéal, ça serait que ça soit pas la femme qui a besoin de partir, si je peux me permettre de répondre comme ça. C'est que il y a en France, on a la chance d'avoir une batterie de lois qui protège les victimes et qui peuvent être utilisées. Et une possibilité, c'est que il y a un éloignement de l'auteur qui lui-même doit quitter le domicile et qui a une interdiction d'approcher madame ou parfois les enfants. C'est quelque chose qu'on peut utiliser et c'est quelque chose que le procureur utilise de plus en plus. Donc, pour répondre, ça fait bientôt 20 ans que j'ai travaillé avec les femmes et les femmes victimes de violences et que au début, c'était vraiment, il y avait peu de structure. Là, maintenant, on travaille beaucoup avec AVIP et AGAV, qui sont les deux structures où il y a les juristes et les psychologues pour aider les personnes qui sont victimes d'infractions, des infractions pénales, et qui ajoutent un accompagnement juridique de la personne, qui est très important, parce que c'est un parcours difficile de déposer plainte et éventuellement de poursuivre avec un procès. C'est pas simple. Donc tout ça, c'est important. Également, il y a les structures d'hébergement quand même qui sont de plus en plus. C'est effectivement difficile d'avoir une place spécifiquement d'hébergement temporaire. Il y a des listes d'attente. Il y a des femmes parfois qui viennent en hébergement d'urgence, que ça soit mis par la SAMU sociale ou en hôtel par nous, et qui doivent attendre pour avoir une place en hébergement temporaire par la suite.
Bah c'est bien le problème, si vous permettez les supports. La prise en charge d'urgence peut durer entre 6 et 8 semaines. C'est vraiment très court comme temps.
C'est pas 6 et 8 semaines. Hein. Donc, excusez-moi de vous contredire. Une personne qui n'a pas de toit ou qui est en danger chez elle, donc pour quelle que soit la raison, peut appeler le 115 et demander une place en hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence, normalement, dure entre une semaine, renouvelable une semaine. Durant ce temps-là...
Par rapport à ce que je disais, moi je disais, si ça a une semaine, là vous me dites une semaine renouvelable, c'est très peu de temps pour que...
C'est très peu de temps, c'est pas jusqu'à... Et que si elle, il n'y a pas de place en hébergement du SAMU social et que la personne est victime de violence, il nous contacte et on peut mettre la personne à l'hôtel que pendant 5 jours. Donc, durant ce temps d'urgence, les travailleurs sociaux vont voir avec la personne qu'est-ce qui est le mieux à faire pour la suite. Alors, c'est pas tout le monde qui va demander un hébergement temporaire. Il y a des personnes qui vont par la suite quitter le territoire ou trouver un autre logement ou que peut-être la plainte aurait été poursuivie et que monsieur a une interdiction de rester dans le logement et madame va retourner. Donc il y a plein de choses qui peuvent se passer pendant ces 5 jours ou 2 semaines. Il y a certaines qui demandent un hébergement temporaire par la suite et malheureusement il n'y a pas assez de place et je suis entièrement d'accord et que certaines personnes sont même contraintes à retourner auprès de l'auteur en attendant une place en hébergement temporaire. C'est pas du tout satisfaisant.
Et Eliane, aujourd'hui vous êtes dans un hébergement temporaire toujours ou vous avez pu trouver...
Non, moi j'ai mon logement. J'ai mon logement que j'ai eu à l'aide de l'arbre fromager qui a été attribué par la SEMICO.
Et donc là, vous êtes tranquille?
Oui, aujourd'hui je suis tranquille. Ça n'a pas été facile. Hein. Ça a été dur parce que déjà, on m'a demandé tellement de choses. Il y a un moment, je pensais que je n'allais pas arriver. Mais aujourd'hui, je suis tranquille. J'ai mon logement et je me sens
libérée.
Bien, libérée.
Pour faire écho à ce que vous disiez à l'instant, les supports, le Premier ministre donc Jean Castex a annoncé une série de nouvelles mesures pour protéger les victimes, comme 1000 nouvelles places d'hébergement pour l'accueil des victimes. Il faut espérer que la Guyane pourra en bénéficier.
Il faut espérer. Donc, en fait, parfois, il y a des annonces. Parfois, il y a de l'argent qui arrive. Très souvent, cet argent n'est pas pluriannuel. L'année dernière, on a eu de l'argent qui nous a aidé à ouvrir un logement où est restée madame pendant plusieurs semaines.
Les fameuses 6 à 8 semaines que vous évoquiez, Patrick.
Les fameuses 6 à 8 semaines. Ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est surtout pour les femmes qui sont passées dans les 5 jours d'hôtel au SAMU social et qui ont un projet qui va se matérialiser très rapidement. Et que donc, on a ouvert ce logement avec l'argent qui est venu de l'État. Et puis après un an, bon, on n'avait plus cet argent. Donc, il fallait aller taper à toutes les portes, la CTG, la préfecture et ailleurs, pour essayer de pérenniser ce logement. On a pu le pérenniser pour un an de plus, mais on ne sait pas de tout ce qui va se passer l'année prochaine. Donc, en fait, c'est extrêmement difficile de pérenniser les financements. Mais comme je vous ai dit, moi, je fais partie de celles qui pensent que ça ne devait pas être la victime et les enfants qui doivent quitter leur vie, leur logement, les habitudes. Les enfants sont scolarisés à côté. Ils ont les amis dans le quartier. C'est déjà un traumatisme, tout ce qui va se passer. Et que pour madame, c'est pas toutes les femmes qui souhaitent rester dans ce logement. Certaines veulent laisser ça derrière elles et trouver une autre vie. Mais pour beaucoup, ça serait beaucoup plus simple.
Alors justement, si elles pouvaient le faire. Des stages de sensibilisation aux victimes intrafamiliales ont été mis en place par la gendarmerie à destination des auteurs. Qu'est-ce qui se passe pendant ce stage? On écoute Morgane Chez, maréchal des logis chefs, référent de violence intrafamiliale à la gendarmerie de Guyane.
Alors, le stage de sensibilisation aux violences intrafamiliales est décidé suite à une condamnation par le procureur de la République. Durant ce stage qui dure 2 jours et demi, la gendarmerie intervient pour expliquer aux mises en cause qu'est-ce que la loi, quelles sont les infractions et comment reconnaître si on est en infraction concernant les violences intrafamiliales. Pareil, il y a une explication des peines encourues pour chaque violence qui peuvent être commises sur les victimes. Durant ce stage, nous sommes accompagnés par les associations d'aide aux victimes qui sont également là pour expliquer aux mises en cause quelles sont les violences également et se faire un suivi en fait de ces mises en cause-là.
Aujourd'hui, c'est un stage qui est efficace.
Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si ce stage-là est efficace parce qu'on n'a pas encore de retombées, on n'a pas de chiffres là-dessus. Du moment qu'une mise en cause qui a participé à ce stage-là a compris que les violences intrafamiliales, il fallait les bannir de son quotidien, pour nous, c'est une victoire.
Morgane Chez au micro d'Alexandra Silbert. On le voit donc difficile c'est de dire s'il n'y aura pas de récidive ou pas. Pour autant, est-ce que cela va dans le bon sens sur ces stages de sensibilisation? Vous en pensez quoi, mesdames? Un petit tour de table, les supports?
Absolument. Moi, je pense que c'est important. C'est une infraction. C'est quelque chose qui est contre la loi. C'est un manque de respect envers la personne avec qui on habite. Ça laisse les séquelles pour tout le monde, mais c'est une infraction. Donc, je pense qu'effectivement, il devait avoir une sanction. Mais la sanction, quelle que soit la sanction, pour moi, ce n'est pas assez pour changer le comportement de la personne pour la suite. Peut-être il va continuer dans le couple dans lequel il est. Peut-être il va aller dans une autre relation. Et s'il ne va pas reproduire les mêmes actes, il faudrait qu'ils comprennent qu'ils devaient avoir un autre comportement. Je voudrais juste vous donner une petite anecdote. Moi, l'Arbre Fromager intervient dans ces programmes pour les auteurs aussi. mais pas moi. Par contre, depuis plusieurs années, on travaille avec le centre pénitentiaire et on fait des modules de sensibilisation des hommes détenus qui ont fait différentes infractions, c'est pas spécifiquement pour les auteurs de violence. Et on fait un module de 4 matinées où on inclut du jokang avec Yannick Théolade, une compréhension de qu'est-ce qui se joue dans ces relations, la place de la victime, mais également un rappel de la loi. Et la dernière fois qu'on en a fait un, la deuxième matinée, il y a un monsieur qui est venu me voir. Et il m'a dit, je voulais juste vous dire, madame, qu'après la matinée d'hier, j'étais en paroi l'après-midi, et j'ai dit à ma femme, quand je sors d'ici, on va aller voir un psychologue, parce que tu es victime de violence. Je te violente, parce que la façon comment je te parle, c'est pas acceptable. Et j'étais sidérée. Donc, bon, c'est pas aussi rapide que ça d'habitude, mais je pense que il faut prendre du temps pour faire comprendre aux personnes qui ont ce comportement que ce n'est pas acceptable et que ça, c'est le devoir de la société.
Eliane, est-ce que vous avez porté plainte contre votre mari pour son comportement violent envers vous?
Oui.
Ça donnait quoi?
En fait, la plainte a été classée sans suite parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour le condamner.
D'accord. Et ça c'est... C'est encore un traumatisme pour vous.
Pour moi, oui.
C'est une forme de violence encore
pour moi,
vous.
Pour moi, oui, parce que j'ai pris du temps à dénoncer et qu'en plus, quand j'ai dénoncé, pour moi, c'est qu'on m'a pas cru, on n'a pas cru ce que j'étais en train de dire. Pourquoi? Parce que j'ai pas atterri à l'hôpital. C'est pour ça qu'on m'a pas cru ou que j'ai pas été tuée. Et parce que j'avais pas assez de bleu sur mon corps. C'est pour ça qu'on m'a pas cru et on a placé ma plainte sans suite.
Ça vous décourage? Vous avez l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau et que...
Non, ça me décourage pas du tout. Ça m'a donné encore plus de la force de suivre ce que j'ai envie de faire. J'ai pas eu envie. Ça m'a rendu triste parce que je me suis dit la justice m'a pas soutenue au moment où je suis venue vers elle et que si je suis venue, c'est parce que j'avais besoin. C'était pas sur un coup de tête que je suis venue, c'est parce que vraiment j'étais en train de subir des choses et que je me suis dit ou j'arrête ça maintenant ou sinon je sais pas jusqu'où ça va aller.
Place publique.
Vous êtes toujours dans la place publique avec nos invités. Donc Eliane qui a été victime pendant des années de violences de son mari, Maïté Fillion qui est animatrice en éducation vie affective sociale et sexuelle. L'association, au sein de l'association Idées Santé, et Leslie Porte, qui est la présidente de l'Arbre Fromager. À mes côtés également, Claire-Marie Céleste, journaliste stagiaire au sein de la rédaction. Eliane, je reviens vers vous. Comment est-ce que vous avez réussi à vous reconstruire?
Ben, j'ai pas encore réussi à me reconstruire 100% parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Mais j'essaie, même si c'est pas tous les jours facile, mais j'essaie de travailler déjà pour payer mon logement et j'essaie d'avancer. J'essaie d'avancer parce que je sais que je ne suis pas la seule. Il y en a plusieurs personnes dans ma situation.
Et qu'est-ce qui était le plus difficile jusqu'à maintenant pour vous?
Mes enfants.
C'est-à-dire?
Parce que mes enfants, ils sont très attachés à leur papa. Et pour moi, ça a été... une déchirure. C'était plus dur pour moi de prendre cette décision par rapport à mes enfants, par rapport à leur quotidien, par rapport à leur vie, par rapport à où ils sont, qu'ils ne voulaient pas partir. Tout ça, c'était super dur pour moi.
Et aujourd'hui, ils vous demandent des nouvelles de leur papa, les enfants?
En fait, aujourd'hui, les choses, ça se passe bien, même si la plainte a été classée sans suite. Mais aujourd'hui, on arrive à parler.
On arrive, c'est vous et votre mari?
Oui, on arrive à discuter. Il n'y a plus de menaces comme avant. Et de toute façon, le divorce est en cours. Et chacun va vivre sa vie. Et puis, voilà, je suis mon chemin, même si ce n'est pas facile, même si ce n'était pas ça que je voulais de ma vie. Mais je ne peux pas continuer à subir des violences.
Vous ne croyez pas que ce soit une tactique de sa part, être gentil avec vous, discuter avec vous, dialoguer avec vous sans problème?
Oui, oui.
Pour que vous reveniez à la maison, par exemple?
Je ne vais pas revenir. Ma décision, elle est prise parce que j'ai pris des années à prendre cette décision et ce n'est pas maintenant que j'ai pris la décision que je vais revenir.
Maïté Filion, qu'est-ce qu'on peut dire quand on analyse ces situations? Vous êtes animatrice, effectivement, c'est peut-être pas tout à fait votre domaine directement, mais sur la prévention, qu'est-ce qu'on peut dire quand on... Quelle lecture vous faites de ce contexte, de cette situation, par exemple?
Ce que je peux vous dire, moi, c'est qu'effectivement, on peut déjà conscientiser les enfants dès le plus jeune âge. Pour qu'ils aient vraiment la conscience des choses qui font du mal, les comportements qui ne sont pas acceptables. On donne aussi quelques notions de droit et de loi pour les plus grands. Hein. On parle aussi de ce qu'il existe au niveau de la loi française. Et puis essayer de faire en sorte que les jeunes peut-être ne produisent pas ce qu'ils malheureusement vivent parfois chez eux. En justement essayant de travailler avec eux sur leur estime de soi, sur le fait qu'il peut y avoir des personnes de confiance à qui on peut s'adresser et que l'importance de justement libérer la parole et de demander de l'aide, de ne pas hésiter à ne pas rester seul face à sa souffrance. On essaye un petit peu d'appuyer là-dessus.
Leslie Porte, est-ce que la crise Covid a accentué le phénomène de violence intraconjugale selon vous?
Alors, dans les premiers deux confinements, on a eu énormément de demandes de mise à l'abri. Donc, en fait, on a fait en 3-4 mois, on a mis plus que le triple du monde à l'hôtel que ce qu'on avait avant. Dans toutes ces situations, c'est les personnes qui vivaient déjà la violence. Mais qui mettait en place les stratégies d'évitement des crises. Donc, c'est-à-dire que monsieur, il travaillait, madame, éventuellement, elle travaillait, mais en tout cas, dans la journée, il n'y avait pas les enfants à la maison, il n'y avait pas tout le monde qui était cloîtré en permanence à la maison. Donc, en fait, le fait qu'il n'y avait pas cet échappatoire accentuerait le fait qu'on vivait avec cette violence et ça devenait trop. On ne pouvait plus le supporter. Donc, ça poussait beaucoup de femmes à déposer plainte. Donc, le nombre de plaintes a explosé durant cette période. Mais personnellement, toutes les situations qu'on a vues à l'arbre fromager, c'était pas la violence qui a commencé pendant le Covid. C'était la violence qui était déjà là et qu'on ne pouvait plus supporter, en fait.
C'est le constat que vous avez fait également, que la Marine
oui,
Céleste, sur le terrain.
Tout à fait. En fait, ce confinement, ce que vous racontez, hein, Leslie Porte, résonne beaucoup avec ce que nous a dit Mirella, justement. C'est que elle nous a dit cette phrase très forte. Avant le confinement, il y avait des excuses. Après, il n'y en avait plus. C'est-à-dire qu'avant le confinement, il se servait des sorties, de ses discussions, de ses danses comme prétexte pour la frapper. Et après, il se servait de n'importe quel prétexte du quotidien. Et c'est cela aussi qui lui a permis de voir qu'elle était dans une situation abusive et de se sortir de cette culpabilisation parce que les prétextes devenaient suffisamment absurdes pour qu'elle-même se rende compte que l'enjeu était ailleurs.
Ouais. Est-ce que le profil des femmes violentées a évolué depuis plus d'une vingtaine d'années ici en Guyane?
Alors, le profil des personnes qui dénoncent la violence ou qui vont aller chercher de l'aide a évolué, dans le sens que, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que la violence conjugale, ça se trouve dans tous les âges, tous les milieux. Ça peut être un homme qui est violenté aussi. C'est beaucoup moins, mais ça existe. Ça peut se trouver dans les couples homosexuels. Mais majoritairement, c'est les femmes. Ce qu'on ne voyait pas avant, c'était les personnes qui étaient d'un certain milieu, qui venaient chercher de l'aide ou qui déposaient plainte. Et maintenant, on le voit. Alors, de nouveau, ma lecture, c'est que cette violence n'arrive pas tout d'un coup à ce milieu-là, mais qu'il y avait un vrai tabou, un vrai honte d'aller chercher de l'aide, un vrai pression de la famille aussi, dont chez beaucoup de femmes créoles qui viennent parler à l'association, elles disent souvent, j'en ai parlé avec ma mère, et elle me dit, tu as vu ce que moi j'ai subi et j'en ai pas morte. Donc, tu fais ce que tu as à faire. Donc, c'était quelque chose qui était plus accepté chez nos aînés dans le passé. Je pense comme quelque chose qui était normal, acceptable. En tout cas, on n'en parlait pas. Et maintenant, on en parle.
Liliane, le bonheur de la fin sera pour vous. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de témoigner?
J'ai décidé de témoigner pour aider d'autres personnes. Parce que au moins, moi, j'ai eu le courage de dénoncer. Et il y en a beaucoup qui ont vécu, qui vivent dans cette situation et qui ont peur de dénoncer. Et qui ne disent rien.
Merci Liliane, en tous les cas, pour votre courage. Et puis, bon courage également pour l'avenir, pour la suite avec vos enfants et pour vous mieux vous reconstruire, effectivement, dans les années à venir.
Merci.
Maïté Fillion, merci également d'avoir participé à cette émission.
Merci à vous.
Les supports, merci.
Merci beaucoup.
À bientôt. Et Clément Céleste, merci pour votre collaboration.
Merci à vous.
Et la série se poursuit, il me semble.
Effectivement, aujourd'hui, samedi, un dernier article web à découvrir sur notre site Guyane La Première.
Merci Claire-Marine Céleste, merci à Guy Papius à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Place Publique. Merci encore de votre fidélité, à bientôt.